Quelle dame ? Dit Camusot.
Une de ses pénitentes, une marquise, répondit M. Gault.
De pis en pis !
S'écria M. de Granville en regardant Camusot.
Elle a donné la migraine aux gendarmes et aux surveillants, reprit M. Gault, interloqué.
Rien n'est indifférent dans vos fonctions, dit sévèrement le procureur général. La conciergerie n'est pas murée comme elle l'est pour rien. Comment cette dame est-elle entrée ?
Avec une permission en règle, monsieur, répliqua le directeur.
Cette dame, parfaitement bien mise, accompagnée d'un chasseur et d'un valet de pied, en grand équipage, est venue voir son confesseur avant d'aller à l'enterrement de ce malheureux jeune homme que vous avez fait enlever.
Apportez-moi la permission de la préfecture, dit M. de Granville.
Elle est donnée à la recommandation de son Excellence, le comte de Sérisy.
Comment était cette femme ? Demanda le procureur général.
Ça nous a paru devoir être une femme comme il faut.
Avez-vous vu sa figure ?
Elle portait un voile noir.
Qu'ont-ils dit ?
Mais une dévote avec un livre de prière, que pouvait-elle dire ?
Elle a demandé la bénédiction de l'abbé, s'est agenouillée.
Se sont-ils entretenus pendant longtemps ? Demanda le juge.
Pas 5 minutes. Mais personne de nous n'a rien compris à leur discours. Ils ont parlé vraisemblablement espagnol.
Dites-nous tout, monsieur, reprit le procureur général.
Je vous le répète, le plus petit détail est pour nous d'un intérêt capital. Que ceci vous soit un exemple.
Elle pleurait, monsieur.
Pleurait-elle réellement ?
Nous n'avons pas pu le voir, elle cachait sa figure dans son mouchoir.
Elle a laissé 300 francs en or pour les détenus.
« Ce n'est pas elle !» s'écria Camusot.
Bibi Lupin, reprit M. Gault, s'est écrié « C'est une voleuse !»«
Il s'y connaît, » dit M. de Granville.
« Lancez votre mandat, » ajouta-t-il en regardant Camusot, « et vivement laissez-les chez elle, partout. »
Mais comment a-t-elle obtenu la recommandation de M. de Sérisy ?
Apportez-moi la permission de la préfecture.
Allez, M. Gault, envoyez-moi promptement cet abbé. Tant que nous l'aurons là, le danger ne saurait s'aggraver.
Et en 2 heures de conversation, on fait bien du chemin dans l'âme d'un homme.
Surtout un procureur général comme vous, dit finement Camusot.
Nous serons 2, répondit poliment le procureur général.
Et il retomba dans ses réflexions.
On devrait créer, dans tous les parloirs de prison, une place de surveillant qui serait donnée, avec de bons appointements, comme retraite aux plus habiles et aux plus dévoués agents de police, dit-il après une longue pause.
Bibi Lupin devrait finir là ses jours. Nous aurions un œil et une oreille dans un endroit qui veut une surveillance plus habile que celle qui s'y trouve. Monsieur Gault n'a rien pu nous dire de décisif.
Il est si occupé, dit Camusot.
Mais entre les secrets et nous, il existe une lacune, et il n'en faudrait pas.
Pour venir de la conciergerie à nos cabinets, on passe par des corridors, par des cours, par des escaliers. L'attention de nos agents n'est pas perpétuelle, tandis que le détenu pense toujours à son affaire. Il s'est trouvé, m'a-t-on dit, une dame déjà sur le passage de Jacques Collin quand il est sorti du secret pour être interrogé. Cette femme est venue jusqu'au poste des gendarmes, en haut du petit escalier de la souricière. Les huissiers me l'ont dit. Et j'ai grondé les gendarmes à ce sujet.
Oh, le palais est à reconstruire en entier, dit M. de Granville.
Mais c'est une dépense de 20 à 30 millions. Allez donc demander 30 millions aux chambres pour les convenances de la justice.
On entendit le pas de plusieurs personnes et le son des armes. Ce devait être Jacques Collin. Le procureur général mit sur sa figure un masque de gravité sous lequel l'homme disparut. Camusot imita le chef du parquet. En effet, le garçon de bureau du cabinet ouvrit la porte et Jacques Collin se montra, calme et sans aucun étonnement.
« Vous avez voulu me parler, » dit le magistrat. « Je vous écoute. »«
Monsieur le comte, je suis Jacques Collin. Je me rends. »
Camusot tressaillit, le procureur général resta calme.
« Vous devez penser que j'ai des motifs pour agir ainsi. » reprit Jacques Collin en étreignant les 2 magistrats par un regard railleur. « Je dois vous embarrasser énormément, car en restant prêtre espagnol,
vous me faites reconduire par la gendarmerie jusqu'à la frontière de Bayonne. Et là, des baïonnettes espagnoles vous débarrasseraient de moi. »
Les deux magistrats demeurèrent impassibles et silencieux. « Monsieur le comte, reprit le forçat, les raisons qui me font agir ainsi sont encore plus graves que celles-ci, quoiqu'elles me soient diablement personnelles. Mais je ne puis les dire qu'à vous. Si vous aviez peur... »
« Peur de qui ? De quoi ? » dit le comte de Granville.
« L'attitude, la physionomie, l'air de tête, le geste, le regard, firent en ce moment de ce grand procureur général une vivante image de la magistrature qui doit offrir les plus beaux exemples de courage civil. Dans ce moment si rapide, il fut à la hauteur des vieux magistrats de l'ancien Parlement, au temps des guerres civiles, où les présidents se trouvaient face à face avec la mort et restaient alors de marbre, comme les statues qu'on leur a élevées.
Mais peur de rester seul avec un forçat évadé.
Laissez-nous, monsieur Camusot, dit vivement le procureur général.
Je voulais vous proposer de me faire attacher les mains et les pieds, reprit froidement Jacques Collin, en enveloppant les deux magistrats d'un regard formidable.
Il fit une pause et reprit gravement. « Monsieur le comte, vous n'aviez que mon estime, mais vous avez en ce moment mon admiration.
« Vous vous croyez donc redoutable ? »
demanda le magistrat d'un air plein de mépris.
« Me croire redoutable ? » dit le forçat. « À quoi bon ? Je le suis et je le sais. »
Jacques Collin prit une chaise et s'assit avec toute l'aisance d'un homme qui se sait à la hauteur de son adversaire dans une conférence où il traite de puissance à puissance. En ce moment, M. Camusot, qui se trouvait sur le seuil de la porte qu'il allait fermer, rentra, revint jusqu'à M. de Granville et lui remit plié deux papiers. « Voyez, » dit le juge au procureur général en lui montrant l'un des papiers.
« Rappelez M. Gault !» cria le comte de Granville aussitôt qu'il eut lu le nom de la femme de chambre de Mme de Maufrigneuse, qui lui était connue.
Le directeur de la conciergerie entra. « Dépeignez-nous, lui dit à l'oreille le procureur général, la femme qui est venue voir le prévenu.
Petite, forte, grasse, trapue, répondit M. Gault.
La personne pour qui le permis a été délivré est grande et mince, dit M. de Granville. Quel âge maintenant ?
60 ans.
« Il s'agit de moi, messieurs ?» dit Jacques Collin.
« Voyons, » reprit-il avec bonhomie, « ne cherchez pas. Cette personne est ma tante, une tante vraisemblable, une femme, une vieille. Je puis vous éviter bien des embarras. Vous ne trouverez ma tante que si je le veux. Si nous pataugeons ainsi, nous n'avancerons guère. »«
Monsieur l'abbé ne parle plus le français en espagnol ?» dit Monsieur Gault. « Il ne bredouille plus ?»
Parce que les choses sont assez embrouillées, mon cher monsieur Gault, répondit Jacques Collin avec un sourire amer et en appelant le directeur par son nom.
En ce moment, monsieur Gault se précipita vers le procureur général et lui dit à l'oreille. Prenez garde à vous, monsieur le comte, cet homme est en fureur.
Monsieur de Granville regarda lentement Jacques Collin et le trouva calme. Mais il reconnut bientôt la vérité de ce que lui disait le directeur. Cette trompeuse attitude cachait la froide et terrible irritation des nerfs du sauvage. Les yeux de Jacques Collin couvaient une éruption volcanique. Ses poings étaient crispés. C'était bien le tigre, se ramassant pour bondir sur une proie.
« Laissez-nous, » reprit d'un air grave le procureur général en s'adressant au directeur de la conciergerie et au juge.
Vous avez bien fait de renvoyer l'assassin de Lucien, dit Jacques Collin sans s'inquiéter si Camusot pouvait ou non l'entendre. Je n'y tenais plus, j'allais l'étrangler.
Et monsieur de Granville frissonna. Jamais il n'avait vu tant de sang dans les yeux d'un homme, tant de pâleur aux joues, tant de sueur au front, et une pareille contraction de muscles.
À quoi ce meurtre vous eût-il servi ?
Demanda tranquillement le procureur général au criminel.
Vous vengez tous les jours, ou vous croyez venger la société, monsieur, et vous me demandez raison d'une vengeance. Vous n'avez donc jamais senti dans vos veines la vengeance y roulant ses lames ? Ignorez-vous donc que c'est cet imbécile de juge qui nous l'a tué ? Car vous l'aimiez, mon Lucien. Il vous aimait. Je vous sais par cœur, monsieur. Ce cher enfant me disait tout le soir quand il rentrait. Je le couchais comme une bonne couche son marmot et je lui faisais tout raconter. Il me confiait tout jusqu'à ses moindres sensations. Ah, jamais une mère n'a tendrement aimé son fils unique comme j'aimais cet ange. Si vous saviez. Le bien naissait dans ce cœur comme les fleurs se lèvent dans les prairies. Il était faible, voilà son seul défaut. Faible comme la corde de la lyre, si forte quand elle se tend. Comme les plus belles natures, leur faiblesse est tout uniment la tendresse, l'admiration, la faculté de s'épanouir au soleil de l'art, de l'amour, du beau que Dieu a fait pour l'homme sous mille formes. Enfin, Lucien était une femme manquée. Ah, que n'ai-je pas dit à la brute bête qui vient de sortir ? Ah, monsieur, j'ai fait dans ma sphère de prévenu devant un juge ce que Dieu aurait fait pour sauver son fils, si, voulant le sauver, il l'eût accompagné devant Pilate. Un torrent de larmes sortit des yeux clairs et jeunes du forçat, qui naguère flamboyaient comme ceux d'un loup affamé par 6 mois de neige en pleine Ukraine. Il continua. Cette buse n'a rien voulu écouter. Il a perdu l'enfant. Monsieur, j'ai lavé le cadavre du petit de mes larmes en implorant celui que je ne connais pas et qui est au-dessus de nous, moi qui ne crois pas en Dieu. Si je n'étais pas matérialiste, je ne serais pas moi. Je vous ai tout dit là dans un mot. Vous ne savez pas. Aucun homme ne sait ce que c'est que la douleur. Moi seul, je la connais. Le feu de la douleur absorbait si bien mes larmes que cette nuit je n'ai pas pu pleurer. Je pleure maintenant, parce que je sens que vous me comprenez. Je vous ai vu là, tout à l'heure, posé en justice. Ah, monsieur, que Dieu, je commence à croire en lui, que Dieu vous préserve d'être comme je suis. Ce sacré juge m'a ôté mon âme. Monsieur, monsieur, on enterre en ce moment ma vie, ma beauté, ma vertu, ma conscience, toute ma force. Figurez-vous un chien à qui un chimiste soutire le sang. Me voilà, je suis ce chien. Voilà pourquoi je suis venu vous dire « Je suis Jacques Collin, je me rends ». J'avais résolu cela ce matin quand on est venu m'arracher ce corps que je baisais comme un insensé, comme une mère, comme la Vierge a dû baiser Jésus au tombeau. Je voulais me mettre au service de la justice sans condition. Maintenant, je dois en faire. Vous allez savoir pourquoi. Parlez-vous à M. de Granville ou au procureur général ? Dit le magistrat. Ces deux hommes, le crime et la justice, se regardèrent. Le forçat avait profondément ému le magistrat, qui fut pris d'une pitié divine pour ce malheureux. Il devina sa vie et ses sentiments. Enfin, le magistrat, un magistrat et toujours magistrat, à qui la conduite de Jacques Collin, depuis son évasion, était inconnue, pensa qu'il pourrait se rendre maître de ce criminel, uniquement coupable d'un faux, après tout. Et il voulut essayer de la générosité sur cette nature composée, comme le bronze, de divers métaux, de bien et de mal. Puis M. de Granville, arrivé à 53 ans, sans avoir pu jamais inspirer l'amour, admirait les natures tendres, comme tous les hommes qui n'ont pas été aimés. Peut-être ce désespoir, le lot de beaucoup d'hommes à qui les femmes n'accordent que leur estime ou leur amitié, était-il le lien secret de l'intimité profonde de messieurs de Beauvan, de Granville et de Sérisy ? Car un même malheur, tout aussi bien qu'un bonheur mutuel, met les âmes au même diapason. Vous avez un avenir, dit le procureur général en jetant un regard d'inquisiteur sur ce scélérat abattu. L'homme fit un geste par lequel il exprima la plus profonde indifférence de lui-même. Lucien laisse un testament par lequel il vous lègue 300 000 francs. Pauvre, pauvre petit, s'écria Jacques Collin, toujours trop honnête. J'étais, moi, tous les sentiments mauvais. Il était, lui, le bon, le noble, le beau, le sublime. On ne change pas de si belles âmes.
Il n'avait pris de moi que mon argent, monsieur. » Cet abandon profond, entier de la personnalité que le magistrat ne pouvait ranimer, prouvait si bien les terribles paroles de cet homme que M. de Granville passa du côté du criminel. Restait le procureur général. « Si rien ne vous intéresse plus, » demanda M. de Granville, « qu'êtes-vous donc venu me dire ? N'est-ce pas déjà beaucoup que de me livrer ? Vous brûliez, mais vous ne me teniez pas. Vous seriez d'ailleurs trop embarrassé de moi. » « Quel adversaire ! » pensa le procureur général. « Vous allez, monsieur le procureur général, faire couper le cou à un innocent, et j'ai trouvé le coupable, » reprit gravement Jacques Collin en séchant ses larmes. « Je ne suis pas ici pour eux, mais pour vous. Je venais vous ôter un remords, car j'aime tous ceux qui ont porté un intérêt quelconque à Lucien, de même que je poursuivrai de ma haine tous ceux et celles qui l'ont empêché de vivre. Qu'est-ce que ça me fait, un forçat à moi ? » reprit-il après une légère pause. « Un forçat, à mes yeux, c'est à peine pour moi ce qu'est une fourmi pour vous. Je suis comme les brigands de l'Italie, de fiers hommes. Tant que le voyageur leur rapporte quelque chose de plus que le prix du coup de fusil, ils les tendent morts. Je n'ai pensé qu'à vous. J'ai confessé ce jeune homme, qui ne pouvait se fier qu'à moi, c'est mon camarade de chaîne. Théodore est une bonne nature. Il a cru rendre service à une maîtresse en se chargeant de vendre ou d'engager des objets volés. Mais il n'est pas plus criminel dans l'affaire de Nanterre que vous ne l'êtes. C'est un Corse. C'est dans leurs mœurs de se venger, de se tuer les uns les autres comme des mouches. En Italie et en Espagne, on n'a pas le respect de la vie de l'homme. C'est tout simple. On nous y croit pourvu d'une âme, d'un quelque chose, une image de nous qui nous survit, qui vivrait éternellement. Allez donc dire cette billevesée à nos analystes. C'est les pays athées ou philosophes qui font payer chèrement la vie humaine à ceux qui la troublent. Et ils ont raison, puisqu'ils ne croient qu'à la matière, au présent. Si Calvi vous avait indiqué la femme de qui viennent les objets volés, vous auriez trouvé, non pas le vrai coupable, car il est dans vos griffes, mais un complice que le pauvre Théodore ne veut pas perdre, car c'est une femme. Que voulez-vous ? Chaque état a son point d'honneur. Le bagne et les filous ont les leurs. Maintenant, je connais l'assassin de ces deux femmes et les auteurs de ce coup hardi, singulier, bizarre. On me l'a raconté dans tous ses détails. Suspendez l'exécution de Calvi, vous saurez tout. Mais donnez-moi votre parole de le réintégrer au bagne, en faisant commuer sa peine. Dans la douleur où je suis, on ne peut prendre la peine de mentir, vous savez cela. Ce que je vous dis est la vérité. Avec vous, Jacques Collin, quoi que ce soit à baisser la justice, qui ne saurait faire de semblables compromis, je crois pouvoir me relâcher de la rigueur de mes fonctions et en référer à qui de droit. M'accordez-vous cette vie ? Cela se pourra. Monsieur, je vous supplie de me donner votre parole, elle me suffira. Monsieur de Granville fit un geste d'orgueil blessé. Je tiens l'honneur de trois grandes familles, et vous ne tenez que la vie de trois forçats, reprit Jacques Collin. Je suis plus fort que vous. Vous pouvez être remis au secret. Que ferez-vous ? Demanda le procureur général. Eh ! Nous jouons donc, dit Jacques Collin. Je parlais à la bonne Franquette, moi. Je parlais à monsieur de Granville. Mais si le procureur général est là, je reprends mes cartes et je poitrine. Et moi qui, si vous m'aviez donné votre parole, allez-vous rendre les lettres écrites à Lucien par mademoiselle Clotilde de Grandlieu ? Cela fut dit avec un accent, un sang-froid et un regard qui révélèrent à M. de Granville un adversaire avec qui la moindre faute était dangereuse. « Est-ce là tout ce que vous demandez ? » dit le procureur général. « Je vais vous parler pour moi, » dit Jacques Collin. L'honneur de la famille de Grandlieu paie la commutation de peine de Théodore. C'est donner beaucoup et recevoir peu. Qu'est-ce qu'un forçat condamné à perpétuité ? S'il s'évade, vous pouvez vous défaire si facilement de lui. C'est une lettre de change sur la guillotine. Seulement, comme on l'avait fourré dans des intentions peu charmantes à Rochefort, vous me promettrez de le faire diriger sur Toulon, en recommandant qu'il y soit bien traité. Maintenant, moi, je veux davantage. J'ai le dossier de Madame de Sérisy et celui de la duchesse de Maufrigneuse. Et quelle lettre ! Tenez, monsieur le comte, les filles publiques, en écrivant, font du style et de beaux sentiments. Eh bien, les grandes dames qui font du style et de grands sentiments toute la journée écrivent comme les filles agissent. Les philosophes trouveront la raison de se chasser croiser. Je ne tiens pas à la chercher. La femme est un être inférieur, elle obéit trop à ses organes. Pour moi, la femme n'est belle que quand elle ressemble à un homme. Aussi ces petites duchesses, qui sont viriles par la tête, ont-elles écrit des chefs-d'œuvre ? Oh ! C'est beau d'un bout à l'autre, comme la fameuse ode de Pyrrhon.
Vraiment ?
Vous voulez les voir ? Dit Jacques Collin en souriant. Le magistrat devint honteux. Je puis vous en faire lire, mais là, pas de farce. Nous jouons franc jeu, vous me rendrez les lettres, et vous défendrez qu'on moucharde, qu'on suive et qu'on regarde la personne qui va les apporter. Cela prendra du temps, dit le procureur général. Non, il est 9h30, reprit Jacques Collin en regardant la pendule. Eh bien, en 4 minutes, nous aurons une lettre de chacune de ces deux dames. Et après les avoir lues, vous contremanderez la guillotine. Si ça n'était pas ce que cela est, vous ne me verriez pas si tranquille. Ces dames sont d'ailleurs averties. Monsieur de Granville fit un geste de surprise. Elles doivent se donner à 7 heures bien du mouvement. Elles vont mettre en campagne le garde des Sceaux. Elles iront, qui sait, jusqu'au roi. Voyons, me donnez-vous votre parole d'ignorer qui sera venu, de ne pas suivre, ni faire suivre, pendant 1 heure, cette personne. Je vous le promets. Bien, vous ne voudriez pas, vous, tromper un forçat évadé. Vous êtes du bois dont sont faits les Turennes, et vous tenez votre parole à des voleurs. Eh bien, dans la salle des pas perdus, il y a dans ce moment une mendiante en haillons, une vieille femme, au milieu même de la salle. Elle doit causer avec un des écrivains publics de quelque procès de mur mitoyen. Envoyez votre garçon de bureau la chercher en lui disant ceci. D'abord Timandana. Elle viendra. Mais ne soyez pas cruel inutilement. Ou vous acceptez mes propositions, ou vous ne voulez pas vous compromettre avec un forçat. Je ne suis qu'un fausseur, remarquez. Eh bien, ne laissez pas Calvi dans les affreuses angoisses de la toilette. L'exécution est déjà contremandée. Je ne veux pas, dit monsieur de Granville à Jacques Collin, que la justice soit au-dessous de vous.
Jacques Collin regarda le procureur général avec une sorte d'étonnement et lui vit tirer le cordon de sa sonnette.
Voulez-vous ne pas vous échapper ? Donnez-moi votre parole et je m'en contente. Allez chercher cette femme.
Le garçon de bureau se montra.
Félix, renvoyez les gendarmes, dit monsieur de Granville.
Jacques Collin fut vaincu. Dans ce duel avec le magistrat, il voulait être le plus grand, le plus fort, le plus généreux, et le magistrat l'écrasait. Néanmoins, le forçat se sentit bien supérieur en ce qu'il jouait la justice, qui lui en persuadait que le coupable était innocent, et qu'il disputait victorieusement une tête. Mais cette supériorité devait être sourde, secrète, cachée, tandis que la cigogne l'accablait au grand jour et majestueusement.